Chers amis, Hachem Alechem Tihyo, et Arechem Dumishanem, nous poursuivons notre étude sur le Tehillim. Nous sommes au Mizmor Gimel. Mizmor les David. Mizmor est un des 10 termes employés pour exprimer le chant, l'extase, la prophétie. Il va être l'inspiration divine. Donc c'est l'élévation. Mais à quel niveau se situe ce Mizmor? Souvent, ici, nous remarquons qu'il est dit Mizmor les David. Ailleurs, il arrive qu'il soit dit les David Mizmor. Y a-t-il une différence? Le mot Mizmor fait référence à Zomer. Mizmor, c'est-à-dire élaguer. Élaguer signifie couper les mauvaises branches. Éliminer les mauvaises herbes de sorte que le reste de l'arbre puisse pousser correctement. Donc c'est élaguer. Et David ici doit d'abord élaguer, éliminer toutes les mauvaises idées qu'il a en lui pour atteindre l'inspiration qui est la prophétie qui est mentionnée dans son nom. C'est ce qu'il dit, Mizmor les David, le Mizmor qui amènera David à l'extase. C'est le sens de Mizmor. Que doit-il éliminer? Que doit-il éliminer? Alors de quoi s'agit-il ici? Nous dit le texte, Mizmor les David, Bevorcho mipene Avshalom beno. Nous savons que David, après l'épisode de Bathsheba, le prophète Nathan entre chez lui et lui propose une énigme. Il lui dit, voilà, il y a deux hommes qui sont voisins, un très riche et un très pauvre. Le très riche, il a de nombreux troupeaux, de nombreux biens, rien ne lui manque. Le pauvre, il n'a qu'une petite brebis. Donc il se couvre de sa laine, il se nourrit de son lait, de son fromage, etc. Il n'a rien que la brebis. Le riche a une fête à faire. Donc il veut faire une fête pour ses amis. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le pauvre, il lui vole en cachette sa brebis et il la donne à manger à ses amis. Quel est le dîne? Lui dit Nathan. Que doit-il lui arriver? Et David se lève et se met exaspéré par cette histoire. Il lui dit, il est passible de mort et il devra payer 4 fois la brebis. Et Nathan lui dit, sache que cet homme-là, c'est toi. C'est toi, cet homme, qui avait autant de femmes que tu voulais et que tu es parti prendre la brebis de Uriah Hittite, en l'occurrence Bathsheba. Donc il lui fait ce reproche-là de manière certaine. Et il se lève et de suite, Nathan lui dit, au nom de Dieu, voilà, Kadosh Baruch Hu va te lever de ta propre maison un malheur, une rébellion qui se lèvera de ta maison. Donc c'est, après cet épisode-là, il y aura un autre épisode de la fameuse histoire de Tamar et de Amnon, qui sont frères et sœurs, mais demi-frères, et que Tamar, elle n'était pas vraiment son frère, puisqu'elle était une convertie, une fille de David, mais qu'il a eue quand sa femme était Goya, parce qu'elle était Ephator. Donc elle était permise en fait, mais il a été violé, il y a une histoire là-bas, et qui va causer la rébellion de Avshalom. Et Avshalom va lever une armée, va rallier à sa cause la majorité d'Israël contre David. Et David va être obligé de fuir. Il y va fuir avec quelques personnes, pas très nombreux, quelques vaillants guerriers qui vont l'accompagner. Donc il fuit. Et pendant la fuite de David, David perd sa qualité de roi. Il a la crainte. Le roi est celui qui n'a que la crainte de Dieu au-dessus de lui. Et David, à ce moment-là, il a la crainte d'Avshalom. Parce que avec Avshalom, il y a Ahithophel. Ahithophel, le grand conseiller, grand chacham, mais qui est l'ennemi juré de David. Donc, David fuit. Et dans cette fuite, imaginons un instant la souffrance du père qui est chassé, qui veut être mis à mort par son propre fils. Qui s'est rallié, qui lui a pris son royaume, il lui a pris son trône, il lui a pris ses femmes, il lui a pris tout ce qu'il possédait. Et David, comme un va-nu-pieds sans rien, part et fuit avec les quelques fidèles qu'il a. Quelle souffrance il a! C'est une souffrance terrible. Alors il commence, il peut élever une complainte, une plainte, des pleurs, il peut élever. Et non, il élève un mise-mort. Mise-mort les David. Et quand est-ce qu'il va élever ce mise-mort? Justement pendant sa fuite. Mise-mort les David, Bevorchom mipene Avshalom beno. Quand il a fui devant son propre fils Avshalom. Par ce mise-mort, la tristesse qui était la sienne, avec la tristesse, comme il est dit au sujet de Yoshaphat, Yoshaphat voulait faire la guerre avec le roi, Yoshaphat, roi de Judée, s'était allié avec le roi d'Israël, donc ils ont cherché un prophète. Et le roi d'Israël était un rachat. Et quand il se présente devant Élisha est fâché de voir ce rachat-là devant lui. Alors il lui dit, oh, mais c'est pas grave, pour moi, Yoshaphat qui était tzadik, dis-moi comment ça va se passer la guerre. Alors il a dit, j'ai pas la prophétie. Puisqu'il était triste et en colère, il était pas bien, il n'avait pas la prophétie. Donc il a demandé qu'on amène des gens qui chantent devant lui. Vaya, et le verset dit, Vaya, kenagen amenagen, vateria lav. Et c'est quand le musicien a commencé à faire sa musique, à apaiser Elisha, que la prophétie, l'esprit divin, l'a investi. Donc c'est exactement là, la même chose. L'esprit divin ne peut pas inspirer David quand il est triste, quand il a la souffrance en lui, quand il a le yagon et la naha, quand il a la tristesse, la mélancolie, la souffrance, elle est en lui très forte. Alors qu'est-ce qu'il fait pour éliminer ça? Il chante. Il se met à chanter, mise-mort. Il commence à louer l'Éternel, à chanter, à oublier, à occulter. Et il se dit, alors la Gemara dit, mise-mort les David, qui n'a les David, Mibaele. Pourquoi tu dis mise-mort? Ton fils, il te poursuit, tu dis mise-mort, un chant, il fallait dire complainte. Alors David a trouvé une réponse. Il dit non, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être un évêque, un esclave, ça aurait pu être un mamzer, ça aurait pu être un méchant, c'est quelqu'un de mauvais dans l'âme, et qui n'a pitié de personne. Et là, c'est mon fils. C'est Khatine Hama. Il y a quelque chose de bien dans ça. Donc, il a élevé un mise-mort. Et ce mise-mort-là va permettre d'éliminer tous les ressentiments négatifs qu'il peut avoir à l'encontre de la situation. À tel point que ça va l'amener à l'inspiration. Et ça, c'est mentionné dans le mot les David. Mise-mort, les David. C'est ce mise-mort-là qui amène l'inspiration à David. Quand est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça quand il était en chemin. C'est-à-dire que c'est la sincérité de l'expression. David, si après cela a été inscrit dans le livre des psaumes, sous l'inspiration prophétique, ça veut dire que c'était ce ressentiment, ce qui est exprimé ici, est la sincérité totale et réelle des sentiments de David. Et David continue, il dit, Hachem, Marabou Sarai, Éternel, Seigneur, combien de souffrances et d'ennemis j'ai. Rabim Kamim Alay. Nombreux ceux sont ceux qui se dressent contre moi. De qui s'agit-il? De tous ceux qui contestent la réalité, la pureté de la lignée de David. Tous ceux qui veulent le mettre à mort. En premier, Achitophel, Vedoega Adumi. Et tous ceux qui l'ont maudit, tous ceux qui sont contre lui, les anciens amis de Shaoul, etc. Il ne manque pas d'ennemis qui sont contre lui, contre ce qu'il représente, contre sa réalité, contre sa petite coute, et on va lui chercher toutes sortes de défauts. On va jeter l'opprobre sur lui, les défauts extraordinaires qu'on va dévoiler, qui sont tout faux. Hachem, Marabout Sarai, combien de malheurs j'ai, combien d'ennemis j'ai? Rabim, Kamim, Alay, nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. Rabim, Omrim, les Nafshi, En Yeshuata, Lobe, Elohim, Sela. Nombreux sont ceux qui disent que je n'ai pas le salut, que mon salut ne peut pas venir d'Hachem. D'Hachem. Pourquoi? Parce que tu as fauté. Tu as fait des fautes telles qu'il est impossible que Akadosh Baruch Hu te sauve. Après ce que tu as fait, c'est impossible. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Vata Adonai, Magen Baadi, Kevodi Omerim Roshi. Et toi, Hachem, tu me préserves, tu me relèves. C'est toi qui défend mon honneur et qui relève ma tête. C'est la situation terrible de celui qui a raison, de celui qui est vrai, de celui qui est dans la perfection, mais que l'instant donné prouve le contraire. Il est en fuite. Il est en fuite, ça veut dire quoi qu'il est en fuite? C'est Hachem qui l'a chassé. S'il est en fuite, ça prouve bien qu'Akadosh Baruch Hu l'a abandonné, qu'Akadosh Baruch Hu l'a, il a laissé son trône vacant, donc la ville de Jérusalem est vide, et Avshalom vient s'installe dans le trône de son père. Ça veut dire que Hachem a bien choisi Avshalom à la place de David. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que les peuples ont dit d'Israël pendant 2000 ans d'exil. Il dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, il vous a changé, vous avez fauté. Akadosh Baruch Hu, il vous a envoyé parmi les nations, et maintenant il a changé. Et nous savons pertinemment que c'est faux. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu change d'avis? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a pu changer David par Avshalom? Ve'ata Adonai, alors donc tout ça, tous les détracteurs, ils disent ça. Ve'ata Adonai Magen Baradi, et toi Hachem, tu me défends. Kevodi ou Merim Roshi, c'est toi qui défends mon honneur et qui relève ma tête. C'est-à-dire que lui, il est persuadé de cela. Mais il le sait au fond de lui. C'est ce qui va lui permettre d'aller de l'avant, de surmonter l'épreuve. Parce que c'est la réalité de la présence de Dieu, et elle est certaine. Mais il ne peut pas, il ne sait pas comment. Comment peut-on dire cela aux autres? Ce qui apparaît, c'est exactement le contraire. Kolil Adonai Ikra, j'élève ma voix vers l'Éternel, je l'appelle. Mais il y a un ennemi Arkocho, c'est là. Il me répond, même si je suis loin de la montagne sainte, Akadosh Baruch Hu me répond. Koli et Hachem Ekra, ma voix. Il y a deux notions dans la prière, il y a la voix et la parole. La voix porte la parole. Quand on exprime une prière, on a une demande, une requête, selon la situation dans laquelle on est, la voix doit traduire. C'est comme si on effaçait les mots, il était suffisant d'entendre le son de la voix sans mots pour comprendre les mots qui sont exprimés. Et c'est là le niveau de la prière de David. Koli Eladonai Ekra. Il appelle la voix, ma voix, monte vers l'Éternel et je l'appelle. Et il me répond. Il me répond, même si je suis loin. David est maintenant loin de Jérusalem. Il est loin de la montagne sainte. Mais Akadosh Baruch Hu lui répond. Ani shachavti vaishana, je me suis couché et j'ai dormi. Et kitsoti, ki adonai ismicheni, je me suis réveillé parce que Akadosh Baruch Hu me soutient. La notion d'aller dormir. Souvent, ceux qui ont des soucis ne peuvent pas dormir. Mais parfois, les soucis sont tels, les angoisses sont telles que on met la tête sous la couverture et on se ferme en dessous de la couverture, on ferme les yeux et on dort. Comme pour oubliez les soucis. Alors, et au matin, alors, Shachavti Vaishana, je me suis couché et je me suis endormi pour oublier mes soucis, pour trouver un temps de repos, en espérant que tout ça n'est qu'un mauvais rêve. Comme si qu'il rentre dans le ventre de sa mère, quand on, quand on se couvre, on a peur de la réalité, on s'endort, on a peur de se lever, on se couvre avec la couverture et on prend la position du fœtus dans le ventre de sa mère, comme si que on est désemparé, on attend que notre mère vienne nous secourir. Nous n'avons plus de solution, on a peur d'affronter la réalité, on a peur de se lever. C'est ça ce que fait David, il dort de cette manière-là. À qui te sautille, je me réveille. À qui te sautille, le réveil avec des énergies nouvelles, avec une vision nouvelle. Il se réveille, c'est-à-dire qu'il sait, il est sorti de la situation qui prévalait quand il est parti dormir. Et là, il a une vision nouvelle de ce qui l'entoure. Il a des énergies, il a la force. Pourquoi ? Qui Hachem Ismecheni, parce qu'il a la certitude que Hachem soutient ceux qui tombent. Somer Hachem, l'Echol Anoflim. Il est dit qu'Hachem soutient ceux qui tombent. Il n'y a pas marqué, il soutient ceux qui sont tombés, c'est-à-dire avant de toucher terre, il les ramasse. Il n'a pas marqué celui qui, c'est comme si il a marqué ceux qui sont en train de tomber. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteints le sol. Ils sont en train de tomber dans le mouvement. Et à ce moment-là, quand Dieu les empêche d'atteindre, de tomber au sol. C'est ça ce qui a marqué ici. Lo ira mirvevot am. Je ne crains pas la multitude du peuple, de ceux qui sont avec Avshalom, la majorité du peuple. S'est rallié à Avshalom. Lo ira mirevot am. Asher saviv chatou alai. Ils m'assiègent. Nombreux sont ceux qui m'assiègent. Et ici, il fait allusion certaine au Kohot Atouma. Tous ceux qui sont contre David, en vérité, ils sont contre la royauté d'Israël. Ils contestent la venue du Mashiach. On refuse cette venue, parce que ça dérange. Ça dérange tous les puissants. Le Mashiach, il marquait que le Mashiach est à la porte de Rome, là, avec les lépreux. La question qui se pose, et il attend. Il attend que le temps arrive. La question, elle est, pourquoi il ne rentre pas en ville? Pourquoi il reste dehors? On ne le laisse pas rentrer. Le Mashiach ne peut pas venir, parce que ceux qui sont dans la ville, ceux qui détiennent les pouvoirs, ceux qui sont les puissants, ne veulent pas qu'ils viennent. Parce que s'ils viennent, alors on aura le monde à l'envers. Les puissants d'aujourd'hui seront les faibles de demain. Ils perdront leur poste. Donc ils empêchent le Mashiach de venir. C'est ça ce qui est marqué ici. Les rabbis, ils l'assiègent. Ils sont contre lui. Parce que David, c'est un homme du peuple. Il a été choisi un berger, qui était un simple individu dans la montagne où il gardait les troupeaux de son père. Lo ira mirvevot am. Je ne crains pas les multitudes du peuple qui sont alliés à Avshalom. Asher saviv chatou alai. Qui se sont dressés, qui m'assiègent de toutes parts. Et cette notion-là, elle est mentionnée souvent dans les livres. Nombreux sont ceux qui attaquent David. Il attaque physiquement, il attaque spirituellement, il attaque dans les sentiments, dans les émotions, et ils veulent qu'il soit pris d'angoisse, de mélancolie, de tristesse, de désespoir. Et ça, David, non. Ça lutte contre ça. Ce qui empêche la prière de monter, c'est le désespoir. C'est la tristesse, c'est l'amertume, c'est le fait de tout le temps rabâcher les douleurs, de se sentir mal. Alors il dit, « Kouma Hachem, Oshireni, lève-toi, toi, Hachem, dresse-toi pour me sauver. Elohai, ki ketai koleva loivai lechi. Tu as frappé sur le visage, sur la mâchoire, tous mes ennemis. Shine Rechaim Shibarta, tu as brisé les dents de mes ennemis, des Rechaim. » C'est-à-dire qu'ici, il fait allusion aux ennemis qui attaquent David étant la brebis, entourée de loups, de lions, de bêtes féroces, qui ont leur force dans la mâchoire et dans les dents. Des carnivores qui ne demandent qu'à déchiqueter cette brebis égarée parmi 70 loups. Allusion ici certaine au Ham Israël, égaré parmi
en assiégé parmi 70 nations, qui ne cherchent qu'à le dévorer. Tu as cassé, tu as frappé au visage sur les mâchoires des Rechaim. Tu les as frappés, tu les as affaiblis. Et tu as brisé leurs dents. Les dents, le shin, fait allusion à la force du mal. En effet, le Nahash, allusion à Esav. Nahash écrit Nun, Het, Shin. Shin, Nun, ça fait Shin. Il reste le Het. Satan, s'écrit Shin, Tet, Nun. Shin, Nun, c'est, là aussi, les deux lettres du début à la fin, c'est Shin, Nun, c'est Shin. Les deux Shin, tu as brisé. Shiné, les deux Shin, des forces du mal, tu les as brisées. Qu'est-ce qui reste? Il reste Het. Le Het et le Tet. 7 et 8, ça fait 19. Tov, il reste que le bon. Shiné Rechaim Shibarta. Tu les as brisés. Tu as brisé toute la force du mal qui entoure et tu n'as laissé que le bien. C'est-à-dire que parmi toutes ces nations-là qui attaquent, tous les gens qui sont alliés à Avshalom qui viennent l'attaquer, tu briseras les forces. Les instigateurs, ceux qui mènent là-dedans, ceux qui sont les concepteurs des projets néfastes, pour laisser que les gentils, pour laisser le bien. Parce qu'il y a du bien à récupérer. Shiné Shibat, Rechaim Shibata, l'Adonai Yeshua. La délivrance, le salut appartient à Dieu. C'est à lui qui procure le salut. À la Mecha, Bechata Sela. Donc tu procures le salut et tu bénis ton peuple. Procure le salut, toi Hachem, car tu as béni ton peuple pour l'éternité, la bracha que tu as accordée à ton peuple pour l'éternité. La dona Yeshua, à la mecha, bechaderazela. Pourquoi tu vas me sauver à moi, David? Parce que tu as promis la bénédiction, tu as béni ton peuple et Olim pour toujours. C'est-à-dire que David est celui qui a besoin du salut, que Dieu doit, à qui Dieu doit le salut. Parce que s'il n'y a pas David, il ne peut y avoir de bracha, de prospérité, de réussite dans le peuple. David est celui qui unit le peuple, qui forme le peuple, qui lui donne qui fait du peuple d'Israël une nation unie, soudée, au service d'Akadosh Baruch Hu. Si David disparaît, alors la bracha qui a été promise à Abraham, Isaac et Jacob pour Israël ne peut pas résider. Il est celui qui concentre, qui forme le peuple, qui permet à la bracha de venir. Et David, sa fonction est quoi? De recevoir de Dieu des sphères supérieures, toutes les bénédictions, pour les dispenser, les diffuser, les diviser, les partager à chacun des peuples. La notion de roi étant une notion de celui qui est roi, il a en tête le souci essentiel du bien-être de chacun de ces sujets. Que la paix règne, que la prospérité, l'abondance, etc. Le bien-être de chacun de ces sujets. Et c'est ça ce qu'il dit ici. L'Hachem à Yeshua, la délivrance ne vient que de Dieu. C'est à toi d'agir, donc. Parce que tu as promis la délivrance et la bracha pour ton peuple Israël. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.